podcast de l'UA.
L'espace politique médiéval des XIIe-XVe siècles est loin d'être un territoire homogène. Des principautés se déploient, des cultures politiques spécifiques s'expérimentent. En Aquitaine, en Normandie, en Flandre, en Bourgogne. Que le prince se dise duc ou comte, il a pu être parfois aussi puissant que le roi et parfois plus puissant que lui. Si tu es un auditeur ou une auditrice fidèle du podcast, tu as entendu souvent la langue chantée à la cour de Bourgogne, telle qu'elle se donne à entendre de ballades en rondeau au milieu du XVe siècle. Chaque épisode s'ouvre sur des mesures sauvées de l'oubli par un copiste italien qui a consigné de nombreuses chansons typiques de ce que l'on a appelé le nouveau style, au rythme simple, homogène, avec ses courtes phrases musicales composées pour être intelligibles, compréhensibles. Les auteurs peuvent être restés anonymes, comme celui de l'Unicum, pour délaisser tristesse et joie, qui accueillent chacun des épisodes de cette collection. D'autres sont des stars de leur époque, comme Gilles Binchois ou Guillaume Dufay. Écoute ici la chanson de Guillaume Dufay, « Revelons-nous ». Elle illustre la liesse populaire. Cet auteur a vécu au XVe siècle. Il est le fils de Marie Dufay, dont il porte le nom. Il fait carrière dans l'Église, devient sous-diacre à la cathédrale de Cambrai, rémunéré ensuite comme membre de la chapelle pontificale à Rome, puis maître de chapelle à la cour de Savoie. Il reste très influent au sein des clercs de la cathédrale de Cambrai. Ses œuvres sont très prisées tout au long du XVe siècle et du XVIe siècle. Gilles Binchois, de son côté, a pour père et mère des bourgeois de Mons, dans le Hainaut. Il vit de revenus tirés de prébendes ecclésiastiques et est sans doute resté seulement sous-diacre sans devenir prêtre. Te rappelles-tu de l'épisode 1 « Mon cœur chante joyeusement » ou de l'épisode 4 et la ballade « Je louais amour ». Ces deux chansons étaient de Gilles Binchois, qui incarne à lui seul la popularité de l'école franco-flamande de la cour de Bourgogne. J'aurais bien pu imaginer certaines mécaniques du jeu dans cette même principauté bourguignonne. Un travail universitaire a été consacré à la politique des ducs valois de Bourgogne à l'égard de la bâtardise entre 1384 et 1477. Alice Duda a ainsi étudié les lettres de légitimation, aujourd'hui conservées, aux archives départementales du Nord à Lille. Écoute cette sonnerie de ralliement de l'homme armé que chante l'ensemble Diabolus in Musica. C'est un chant de guerre fort prisé par les ducs de Bourgogne. Mais qu'aurait-on pu entendre dans l'espace politique des rois ? Tu as souvent dû te rendre à la chancellerie du roi pour requérir une lettre de légitimation. Au XIVe siècle, être un clerc de notaire du roi, comme le fut Philippe de Vitry pour le roi Charles IV le Bel, n'empêche en rien de devenir l'un des principaux théoriciens de la musique de son temps et même un compositeur renommé. Quelques motets, consignés en marge du roman satirique de son temps, appelé « Le roman de Fauvel », lui ont été attribués, ainsi qu'un traité sur ce qu'au début du XXe siècle, on a appelé « l'ars nova », l'art nouveau. Philippe de Vitry eut une foisonnante carrière. Après l'univers de la chancellerie du roi, il est chanoine prébendé de Clermont en Beauvaisis et finit évêque de Meaux. Mais revenons en 1316 au roman de Fauvel. Ce motet, que va te chanter Anne de la Fosse, est d'un auteur resté anonyme, lui. Le motet est une forme musicale déjà ancienne à cette époque. Il est composé d'une voix principale et d'une voix seconde. Cette forme musicale traduit bien le débat et ici la satire, puisque deux voix chantent ensemble deux textes différents. Ici, Anne de la Fosse te fera entendre chacune des deux voix séparément avant d'engager le motet lui-même dans la superposition des voix mêlées.
Du métier de la civière.
Ouh là 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 là.
Je vois douleur à venir, car tout se fait par contraire.
Alors, tu sais, moi je vais te dire.
Autant mais si pouvais arrière comme avant. Autant mais nous si pouvais arrière car tout se fait par contraire.
Poursuivons notre balade musicale dans ces espaces profanes du jeu. Dans ces villes qui se développent au XIIe et XIIIe siècle. Écoutons comment fut chanté, par exemple, le monde des artisans, comme dans cette pièce adressée à un meunier composée au XIIIe siècle. Son me regarde t'interpellera aussi dans sa forme du motet polyphonique, qui traduit un peu de l'agitation et de l'effervescence du monde des villes médiévales.
Hé, hey, son me regarde, dites-le-moi. Venez-y, garde. Hé, hey, mi-enfant.
Après la cour, ou plutôt les cours seigneuriales, les administrations princières, les champs de bataille, les tournois qui vous y préparent, et les villes des artisans comme des marchands, revenons à présent à la campagne, là où vivent la très grande majorité des populations médiévales. Cette fois, je te propose de pousser les portes d'une simple église paroissiale, d'un village où les hommes et les femmes voués à rester dans une vie de laïc vont peut-être devoir se rendre pour consentir à devenir mari et femme. Dans les parcours du jeu, peut-être as-tu parfois fait ce choix de répondre aux attentes de ce qu'on appelle la conjugalité, la vie d'époux légitime qui garantit aux enfants d'être considérés comme légitimes à leur tour. Au XIVe siècle, un manuscrit a recueilli la mémoire de cette messe dite de Tournai. Ici, le chœur des clercs de la paroisse chante le « Prends pitié », le « Kyrie eleison » de la liturgie ordinaire de la messe. Dans la chapelle du pape, comme dans la modeste église de paroisse, la liturgie réunit autour des mêmes gestes les prêtres et leurs fidèles. Les parcours ecclésiastiques du jeu ont pu te donner à comprendre toutes les facettes du pouvoir des membres de l'église, ordonnateurs des sacrements, qui incluent le chrétien dans la communauté spirituelle comme dans la vie sociale. Le baptême, le mariage, l'ordination pour accéder à la prêtrise, la pénitence, l'eucharistie sont de ceux-là. L'histoire des formes musicales médiévales occidentales traduit aussi cette centralité de l'Église. L'institution, ses hommes et ses quelques femmes, et les églises, ces lieux qui accueillent la liturgie. Le chant grégorien naît au 8e siècle à travers un répertoire de textes et de mélodies destinés à assurer une certaine homogénéité à la liturgie. C'est vers le 12e siècle que le mot de plein chant désigne cette manière de chanter dans l'Église avec une rythmique basée sur celle du mot latin des textes sacrés. Dans le jeu, tu pourras pousser la porte d'une église priorale. Des religieuses cisterciennes a pu un jour y résonner, depuis le XIIe siècle, ce Salve Regina, chant et prière à la Vierge Marie, comme cette ancienne anonyme spécialement cistercienne. Dans les parcours du jeu pour les carrières ecclésiastiques, tu iras peut-être te promener à Paris. Au XIIe siècle encore, le chapitre des chanoines de Notre-Dame de Paris y est puissant. Et les chantres, les chanoines responsables du chœur, de la chorale, y déploient un plein chant peu orné. Nous sommes entre 1150 et 1230. Les voix sont égales et simultanées. Découvre à présent cet organum. C'est une forme musicale polyphonique à plusieurs voix. Il date, lui, du XIIIe siècle et est attribué au Magister Perrotinus, maître Perrotin. Il est en latin, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un chant tiré d'un psaume, un des livres de l'Ancien Testament que les médiévaux utilisaient en latin. Viderunt omnes, viderunt omnes finesterae salutare Dei nostri. Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Cet organum était chanté lors des messes de l'époque de Noël. Au XIVe siècle, à la chapelle du pape, sur les terres du comtat venaissin qui accueille la papauté dite d'Avignon, la messe résonne aussi. Écoutons le chant d'envoi qu'en propose l'ensemble Diabolus in Musica, l'ite missa est qui indique la fin de la messe.
Thank you.
Mais le monde des clercs, ce n'est pas seulement celui des églises et des sacrements, c'est aussi celui du savoir, comme au Studium parisien que Jehan pourra faire le choix de fréquenter dans une carrière ecclésiastique. C'est donc avec ce conduit d'un auteur anonyme du XIIIe siècle que nous allons achever notre balade. C'est un chant latin, paraliturgique ou moralisateur. Et s'il nous donnait à entendre comment pouvaient s'inventer des moyens mnémotechniques pour apprendre à chanter. Nous allons donc clore cette balade musicale qui nous a promenés dans le temps, dans les lieux de la vie quotidienne, politique, spirituelle ou économique des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Tends l'oreille, je te parie que cette fois tu reconnaîtras les paroles qui sont ici chantées dans ce facétieux fa fa mi fa.
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent. Je suis accueilli par la MIF comme Lee Wellin à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère. Subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards. Pour chasser comme les albiges ou en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres. J'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards. Un stylo, un style de barbare. Pour mettre en musique des rimes de bâtards. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. On ne sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des macules et des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des ratures et des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vies brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclairs s'il y en a pas une seule par journée. Pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus.